La première, le monde en direct. Julie Morel et Sophie Léonard.
À 18h45, disposera-t-on bientôt en Europe d'un nouveau moyen de paiement? Pourra-t-on bientôt faire ses courses dans les pays de la zone euro avec un portefeuille numérique rempli d'euros numériques?
C'est un vieux projet et c'est pas encore pour demain, mais les discussions s'accélèrent. Et ce qui est sûr, c'est que la présidente de la Banque Centrale Européenne, Christine Lagarde, en fait une priorité, elle l'a répété à plusieurs reprises depuis le début de l'année.
The deadline for us is going to be October.
L'échéance pour nous est fixée au mois d'octobre 2025 et nous nous y préparons. Mais nous ne pourrons avancer que si toutes les parties prenantes, la Commission, le Conseil et le Parlement achèvent le processus législatif. Je pense que c'est d'une importance cruciale. Même pour les agnostiques, les sceptiques, ce projet semble plus pertinent et plus impératif que jamais.
Bonsoir Bruno Coleman.
Bonsoir.
Vous êtes professeur d'économie et vous suivez depuis le début l'évolution de ce projet, l'euro économique numérique, pardon, un concept un peu abstrait. On va tenter avec vous de le rendre plus concret. L'euro numérique, c'est quoi ?
Mais c'est d'abord le constat qu'il y a plusieurs types de monnaie. Il y a d'abord ce qu'on appelle les pièces, les billets. On appelle ça la monnaie fiduciaire, dans laquelle on a confiance, qui est émise par les banques centrales. Et puis une fois qu'on injecte cette monnaie dans un circuit bancaire, on a ce qu'on appelle de la monnaie scripturale, c'est-à-dire la monnaie qui, de compte à compte, permet de faire des dépôts, permet d'emprunter. Ça crée ce qu'on appelle un flux de monnaie. Mais ce qu'un particulier ou une entreprise non bancaire ne peut pas faire, c'est ouvrir un compte directement auprès de la banque centrale, qui est en fait le créateur de monnaie. Et l'euro numérique, c'est ça. C'est permettre à des particuliers, jusqu'à 3-4 000 euros par personne, à des entreprises, d'ouvrir un compte auprès de la banque centrale. La banque centrale leur permettant, par cet euro qu'on appelle numérisé ou digital, de faire des transferts de compte à compte, c'est-à-dire de faciliter les virements à un coût quasiment réduit entre agents économiques.
Et donc il n'y aura pas de flux.
Alors, il y aura un flux entre personnes qui ont un compte auprès de la banque centrale, mais ça veut dire que pour un particulier, et c'est pour ça que les banques commerciales sont assez réticentes, on aura en fait deux types de comptes. Si vous avez un compte auprès d'une banque belge, prenons le cas de Belfius par exemple, vous auriez un compte normal chez Belfius, et puis un compte Belfius banque centrale, avec la certitude que cet euro banque centrale soit déposé auprès de la banque centrale. Ça permettrait aussi à la banque centrale de financer les dettes publiques, parce que l'idée évidemment, pour la banque centrale, c'est d'avoir son bilan financé par une partie de l'épargne populaire et de refinancer les États qui, on le sait, en ont grand besoin puisque les dettes publiques sont très importantes.
C'est pas si facile à comprendre parce qu'on a l'impression aujourd'hui, quand on fait un paiement, qu'on utilise déjà d'une certaine manière des euros numériques. Ce n'est pas ce qu'on fait.
Oui, alors c'est un gros problème. D'ailleurs, les banquiers, je le disais, sont réticents. Le cabinet de conseil PwC a estimé que ça coûterait 18 milliards d'euros à toutes les banques de la zone euro. Et en fait, les banques prennent comme argument le fait que déjà maintenant, on peut faire des virements de compte à compte à un coût quasiment nul.
Oui, parce que ces coûts, ils ont été très fortement réduits. Ce serait quoi l'intérêt d'avoir des euros numériques par rapport à des euros classiques qui passent par les banques?
C'est une idée d'abord de souverainisme monétaire qui est, on va dire, promue par la Banque Centrale Européenne. Mais donc c'est une façon de renationaliser la monnaie, c'est-à-dire d'avoir une monnaie qui soit sous le contrôle de la banque centrale plutôt que d'avoir une monnaie qui est sous le contrôle des banques commerciales. Mmh. Et donc les banques commerciales privées disent effectivement, nous faisons déjà des virements instantanés, c'est le cas en Belgique, ce sera bientôt le cas dans toute la zone euro, le coût est quasiment réduit à néant. Un banquier français a dit, mais finalement l'euro numérique c'est une solution à un problème qui n'est pas posé. Mmh. Et donc ce sera peut-être bien plus tard qu'en 2025 qu'on verra vraiment cette réalité. Et il y a un danger aussi, c'est que s'il y a une crise bancaire, tout d'un coup, des particuliers décident de vider les comptes traditionnels auprès des banques commerciales, prennent cet argent, le déposent auprès de leur compte banque centrale, ce qui assécherait le système bancaire en termes de liquidité. C'est-à-dire que les particuliers ou les entreprises chercheraient la sécurité auprès de la banque centrale, raison pour laquelle le montant serait maximum de 3 à 4 000 euros pour éviter des effets de bord extrêmement importants.
C'est ça que j'allais vous poser, parce que vous aviez parlé de 3 à 4 000 euros maximum qu'on pourrait déposer.
Est-ce que ça ressemble, pour ceux qui s'en souviennent, un peu au système Proton ? quand on avait de l'argent sur un portefeuille numérique, mais où quelque part on ne devait pas passer, c'était pas tout à fait comme un compte bancaire.
Non, c'est beaucoup plus développé que ça. Proton, c'était une carte en fait qui portait la mémoire d'un certain nombre à l'époque de francs belges.
Mais est-ce que ça fonctionnerait comme ça? Est-ce qu'on aurait une carte avec une puce qui permet?
On pourrait l'imaginer, mais l'important d'abord, c'est d'avoir deux comptes bancaires, c'est-à-dire un compte normal et puis un compte de Banque Centrale Européenne. Avoir en fait des cartes qui permettent de faire des transferts de personne à personne, ça c'est dans un second stade. Mais la première idée, c'est de faciliter, de sécuriser les paiements entre agents économiques, avec un grand débat qui porte d'ailleurs sur le fait de savoir si ce seront d'abord les entreprises ou les particuliers qui pourront utiliser ces euros digitaux. Le fait est que les banques centrales ont toujours analysé avec beaucoup d'indulgence et d'intérêt ce phénomène du bitcoin. Il y a des monnaies digitales déjà en Chine qui sont très développées, mais là qui répondent à un autre motif, c'est le traçage de l'argent dans une économie où finalement on veut savoir quels sont les circuits monétaires qui sont manipulés par les personnes ou les entreprises. Et puis il y a aussi aux États-Unis, il y avait le même projet, mais auquel Trump semble avoir mis une fin.
Donc la banque centrale américaine voulait aussi créer un dollar numérique.
Absolument.
Et aujourd'hui elle y renonce parce que ce sont plutôt des stablecoins privés, comme on dit, qui sont en train de se développer.
Voilà, ça disqualifie d'ailleurs un peu le projet européen. Donc Donald Trump a dit qu'il ne voulait pas de monnaie banque centrale, il préfère ce qu'on appelle avoir des stablecoins, donc des jetons stables, sécurisés. Et l'idée en gros, c'est quoi? C'est que des entreprises privées puissent émettre ces jetons, ces stablecoins, dans une parité 1 pour 1 par rapport au dollar. Et en fait, la contrepartie de ces dollars serait des bons du trésor américain. Ce qui veut dire que l'entreprise privée gagne de l'argent parce qu'elle récupère l'intérêt sur les bons du trésor américain et émet ces fameuses monnaies, ces stablecoins qui ne rapportent rien. Ces stablecoins pourraient être utilisés de manière transactionnelle, mais peut-être un jour dans un circuit bancaire. Et ce qui est en fait assez troublant, c'est de voir que si ces stablecoins se développent et les banques américaines se jettent sur le marché, on aurait en fait plusieurs types de dollars. On aurait des dollars normaux, et puis on aurait des dollars stablecoin dans une parité 1 pour 1, mais peut-être plus sécurisés que ceux qui sont émis par le secteur bancaire. Parce que quand vous déposez votre argent dans une banque, qu'est-ce qui se passe? Vous mélangez votre épargne avec l'épargne de personnes que vous ne connaissez pas, l'argent est géré par des personnes que vous ne connaissez pas non plus, on donne des crédits à des personnes que vous ne connaissez pas, ça fait beaucoup d'inconnus. Tandis qu'un stablecoin, vous êtes certain, si le système fonctionne, que vous avez derrière votre stablecoin, en fait, un emprunt d'État à court terme américain, c'est-à-dire que c'est sécurisé.
Mais avec l'euro numérique, on est sécurisé aussi, parce qu'à partir du moment où on ne passe pas par une banque et que c'est directement la banque centrale qui émet, comme elle le fait pour les billets, ça veut dire que là aussi, on a une garantie supplémentaire, en fait.
On a une garantie supplémentaire, et donc ça veut dire qu'il y aurait une épargne qui serait mieux sécurisée que dans le système bancaire. Mais je répète, c'est pour ça que les banques ne sont pas tellement contentes, parce que finalement, on pourrait en arriver, en cas de crise bancaire, à ce qu'il y ait une parité qui ne soit plus un pour un pour l'euro. Ouais. C'est-à-dire qu'un euro déposé auprès d'une banque, peut-être en difficulté, soit moins sécurisé. Sécurisé vaille moins qu'un euro placé au Parlement.
Et le paradoxe de cet euro numérique, c'est que pour l'installer, on a besoin des banques, mais en même temps, ça ne va pas bénéficier aux banques, ça risque plutôt de provoquer une forme de débancarisation du système, puisqu'elles ne sont plus des intermédiaires indispensables comme elles le sont aujourd'hui avec nos euros classiques.
C'est le vrai problème, et en fait, les banques ont un contre-argument qui est de dire qu'elles peuvent elles-mêmes déposer l'argent des particuliers des entreprises auprès de la Banque Centrale Européenne, ce qu'elles font. Et en fait, c'est une vieille idée qui date des années 30, ça s'est appelé dans les années 30 le plan de Chicago, j'avais écrit un livre sur ça il y a quelques années, et le plan avait été refusé par le président Roosevelt à l'époque, mais aussi par les banques privées, qui auraient vu, en fait, dans ces dollars qui auraient été nationalisés, en fait, une débancarisation complète du système bancaire, c'est-à-dire que les banques n'auraient plus trouvé de rentabilité. Et en fait, il y a un arbitrage à trouver entre la sécurité qui est promise par la Banque centrale, la rentabilité des banques, et surtout ce problème de liquidité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, dans le système bancaire, déstabiliser en termes de liquidité par des effets de mouvements individuels, mais collectifs très importants, de l'épargne qui serait extraite des banques commerciales vers la Banque centrale européenne.
Pour ceux qui n'auraient pas encore tout à fait bien compris comment ça fonctionne, est-ce que on peut dire que on est plus proche avec l'euro numérique de l'argent cash, de l'argent liquide, que de l'argent qu'on a aujourd'hui sur un compte et qu'on utilise en faisant une transaction avec une carte ou en tapant un code sur Internet?
Vous êtes en fait avec un euro numérique, si tant est que vous ouvriez un compte, vous êtes en fait avec de l'épargne qui est déposée auprès du créateur de monnaie. Parce que la banque centrale, c'est en fait l'attribut de confiance qui est associé à la monnaie. C'est l'institution suprême, c'est elle qui donne une valeur, mmh. en fait, publique, une valeur certaine, une valeur régalienne à la monnaie. Et donc, vous avez un euro digital, numérisé, qui est en fait en coffre auprès du créateur de la monnaie dans tous les sens du terme.
Donc c'est une nouvelle monnaie d'une certaine manière.
C'est une monnaie complémentaire qui serait dans les mêmes parités que les euros, mais c'est simplement un déplacement d'épargne existante des banques commerciales vers la Banque Centrale Européenne qui pourrait alors voir son bilan grossir et utiliser ces euros numériques, par exemple, pour financer des dettes publiques, mais voire pour d'autres choses.
D'où l'insistance aujourd'hui de Christine Lagarde pour qu'on en fasse une priorité.
Oui.
C'est aussi une manière de renflouer les caisses.
C'est une manière d'aider au refinancement des États. Ça peut aussi servir à financer des buts écologiques, par exemple. On pourrait imaginer que les euros banques centrales soient utilisés pour prêter de l'argent dans des buts climatiques ou environnementaux. Mais on sent quand même que les monnaies digitales soient privées aux États-Unis ou publiques ailleurs, que la monnaie est en train de changer de morphologie. C'est-à-dire que la monnaie qui en fait était un produit naturel du capitalisme devient progressivement renationalisée. Et ça s'inscrit dans un contexte plus global de souverainisme financier. C'est-à-dire que les zones monétaires sont en train, on va dire, de se reconcentrer. Les États veulent recontrôler l'épargne, s'assurer que cette épargne ne se disperse pas, parce qu'on sait que les dettes publiques sont très importantes et doivent finalement, in fine, être financées par de l'épargne populaire.
Un des arguments de ceux qui défendent cet euro numérique, c'est aussi le fait que ce soit accessible hors ligne, en tout cas, on pourrait le prévoir. Ça veut dire que, en cas de panne d'électricité géante comme on en a connu une en Espagne récemment et qui a un petit peu figé tout le système, y compris les retraits d'argent et les transactions bancaires, on aurait là un système en fait qui permet de continuer à vivre et qui là aussi permet d'une certaine manière une plus grande résilience en fait, non ?
Oui, c'est vrai, mais en même temps, pour avoir accès à ces euros digitaux auprès de la banque centrale, il faut un canal d'entrée. Et le canal d'entrée sera d'abord une banque commerciale, donc si le système des banques commerciales s'effondre...
Donc de l'électricité, mais pas nécessairement Internet.
Voilà, c'est pas pour ça que l'argent va disparaître, mais il y a un point d'entrée. On ne peut pas, sans énergie, comme c'était le cas en Espagne ou au Portugal, avoir accès à la Banque Centrale Européenne. Et en fait, c'est une évolution qui va prendre beaucoup de temps. Dans un premier temps, il faut que les banques commerciales jouent le jeu. Et je le répète, je ne suis pas du tout sûr qu'elles ont envie de développer cette infrastructure technologique gigantesque qui va en fait conduire à doubler potentiellement le nombre de comptes, simplement pour faire plaisir à la Banque Centrale Européenne et voir le cas échéant des déplacements d'épargne assez importants.
Merci beaucoup Bruno Coleman d'être venu nous expliquer ce qu'est l'euro numérique. On en reparlera évidemment certainement. Merci Julie, on se retrouve
Merci
demain.
Sophie.
Excellente soirée sur la première, la suite. Ce sont les 5 heures ciné. À bientôt. La première.